Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Y aura-t-il de la neige à Pâques et un référendum le 26 mai prochain? Le gouvernement qui cherche à trouver une issue à la crise des gilets jaunes, dans la lignée du grand débat national, pourrait décider d'organiser un référendum le même jour que celui prévu pour les élections européennes. Hier, les réactions politiques se sont succédées pour commenter cette possibilité, verdict attendu donc. Mais concrètement, quels aspects juridiques encadrent la tenue d'un référendum et toutes les questions sont-elles recevables? Bonjour Arnaud Lepilouer, vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Alors éclairez-nous sur la question du référendum. Comment est-il régi dans notre Constitution ?
Oui, alors en fait, dans le texte de la Constitution de 1958, il y a en fait deux voies possibles pour le président de la République, pour soumettre un projet au référendum. Je dis le président de la République, il y a d'autres autorités, mais en fait, c'est toujours le président de la République sous la Ve qui, qui utilise cette possibilité. La première, c'est la voie de l'article 11 de la Constitution, qui est le référendum législatif, disons, ordinaire, qui a un domaine qui est circonscrit par la Constitution. C'est peut-être un projet relatif à l'organisation des pouvoirs publics, c'est peut-être un projet relatif à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Et ce peut être une loi autorisant la ratification d'un traité. C'est l'hypothèse Maastricht, traité constitutionnel. C'est un référendum direct que le président peut soumettre comme ça au peuple. L'article 89, lui, est réservé au cas de révision de la Constitution. Et la procédure est plus compliquée, puisque le président de la République doit d'abord faire adopter le texte par les deux chambres séparément, qui doivent adopter le texte dans les mêmes termes, avant éventuellement de le soumettre au référendum. C'était le cas du quinquennat, mais c'est la seule hypothèse qui a été retenue. Sinon, on passe d'habitude par le Congrès, c'est plus facile.
Alors Arnaud Lepilouer, vous qui êtes professeur de droit public, l'autre question qu'on se pose évidemment consiste à savoir si, en des temps qui seraient des temps difficiles, un gouvernement, un chef de l'État, pourrait être conduit par voie de référendum à poser une question qui enfreindrait la Constitution. Est-ce qu'il y a des barrières, des sécurités dans notre Constitution qui empêcherait cela?
Mais alors en réalité, les textes qui sont adoptés par référendum sont soumis à un régime assez particulier sous notre Constitution, puisque contrairement aux lois ordinaires qui sont adoptées par le Parlement, le Conseil constitutionnel refuse, se déclare incompétent, comme on dit en droit, pour connaître de la régularité des lois adoptées par référendum. Il estime qu'il s'agit de l'expression directe de la souveraineté nationale et que donc il ne peut pas contrôler la validité, donc la conformité à la Constitution de ces textes.
Mais alors ça c'est quelque chose de compliqué à comprendre parce que alors d'un côté on peut se dire qu'il n'y a rien au-dessus du peuple, mais de l'autre, moi je pensais que l'expression du peuple était soumise à son respect à un certain nombre de textes qui étaient des textes supérieurs, par exemple la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, alors beaucoup de juristes pensent comme vous. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que la question de savoir si un texte respecte la Déclaration des droits de l'homme ou la Constitution est toujours une question controversée. Hein, ça n'est pas quelque chose qui était immédiatement perceptible. Ce sont des questions politiques en réalité. Est-ce que je sais pas
rétablissement, par exemple, de la peine de mort. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être soumis au référendum?
Alors, il y a une disposition constitutionnelle qui a été introduite en 2007 qui interdit de recourir à la peine de mort. C'est l'article 66-1. Normalement, ce devrait être interdit de faire un référendum sur cette question et d'obtenir le rétablissement de la peine de mort. Mais si le Conseil constitutionnel persiste dans sa jurisprudence qui consiste à ne pas contrôler les lois référendaires, évidemment, ça pourrait avoir lieu. Je vous rappelle que si nous élisons aujourd'hui le président de la République au suffrage universel direct, c'est parce que le général de Gaulle a révisé la Constitution en utilisant la voie de l'article 11, qui semble-t-il n'était pas prévu pour cela, puisque c'est l'article 89 qui figure dans le titre qui s'intitule « De la révision », qui devrait permettre cette révision. Or, il l'a fait et nous vivons sous l'empire de cette réforme.
Et alors, pour le reste, quel est l'intérêt d'organiser un référendum, Arnaud Lepilouer? Est-ce qu'il y a, selon vous, un objectif, des intérêts à attendre du référendum?
Alors, ça dépend. Pour le président de la République, je crois qu'il y a vu un intérêt, sans doute, c'est assez malin, parce que, en réalité, la réforme institutionnelle qu'il a proposée l'été dernier, qui a été finalement mise en suspens suite à l'affaire Benalla, eh bien, d'après ce que j'ai lu dans la presse, les réformes qui sont pressenties pour être soumises au référendum, en dehors des questions qui seront soulevées lors du grand débat, eh bien, ce sont précisément les réformes qu'il avait annoncées lors de des trois projets de loi constitutionnelle, organique et ordinaire qu'il avait présenté l'été dernier. Et le problème auquel il était confronté, c'est que le Sénat, semble-t-il, était réticent sur un certain nombre de ces réformes. Or, pour faire passer ces réformes, il aurait dû présenter ce projet au référendum direct, donc éviter la révision constitutionnelle ou des lois organiques auxquelles le Sénat peut s'opposer pour certaines d'entre elles, eh bien, il aurait dû passer par le référendum direct de l'article 11, comme l'avait fait De Gaulle en 62, ce qui était politiquement très difficile, et en plus, qui risquait de lui coûter cher s'il perdait ce référendum. Là, l'idée de faire un référendum à questions multiples dilue en fait le problème et lui permet éventuellement de dire que ce sont les questions soulevées lors du débat qu'il ne fait. Ce n'est pas lui qui pose la question en quelque sorte, mais les citoyens eux-mêmes, ce qui permet finalement d'éviter que le rejet de quelques-unes des réformes proposées dans ce référendum à questions multiples apparaissent comme une défaite d'Emmanuel Macron.
Alors on pourrait dire néanmoins que cela affaiblit la démocratie représentative, puisque dans ces conditions, il demanderait au peuple de trancher des choses qu'il devrait normalement en trancher, puisqu'il a été élu pour trancher. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une inflexion de l'esprit de la constitution de la Ve République, Arnaud Le Pilouer ?
Oh, la Ve République a toujours été très ouverte au référendum, en particulier De Gaulle, qui avait largement recours à cette procédure. Quant à la question de l'opposition entre démocratie directe et démocratie représentative, il me semble que le recours au référendum est soit diabolisé, soit porté au nu de façon sans doute un peu excessive, et que ce qui compte, c'est vraiment la manière dont les conditions de ce référendum sont prévus la manière dont la question est posée, etc. C'est ça qui fait qu'un référendum est intéressant politiquement.
Merci Arnaud Le Pilouer. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris-Nanterre.